Depuis le 14 octobre dernier, l'activiste suisso-camerounaise Nathalie Yamb est considérée comme étant indésirable en France. En effet, donc, les autorités françaises l'ont déclarée persona non grata dans le pays. Il est reproché, donc, à cette dernière d'encourager le recours à la violence contre des symboles de la présence française en Afrique. En outre, la Suisse camerounaise, donc, serait le relais de la propagande pro-russe, selon eux, diffusée depuis le continent africain. A priori, l'on peut trouver incongru que la France, patrie des droits de l'homme, interdise d'entrée et de séjour sur son territoire une personne pour ses idées. Mais si la France en est arrivée là, c'est que quelque part, elle doit avoir de nombreuses craintes. Le texte de l'arrêté, qui était resté confidentiel pendant 9 mois jusqu'à ce qu'il soit formellement adressé à Nathalie Yamb, lui reproche notamment les diatribes récurrentes qu'elle profère contre la France et ses autorités et dans lesquelles elle cautionne, voire selon eux, encourage le recours à la violence à l'encontre des symboles de la présence française en Afrique, toujours selon le média propagandiste RFI. L'arrêté du ministère français de l'Intérieur reprocherait également à cette dernière sa proximité avec l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo ainsi que l'ancien président de l'Assemblée nationale ivoirienne Mamadou Koulibaly. L'arrêté indique également qu'au regard de la haine profonde que, selon eux, elle entretiendrait à l'égard de la France, et surtout de l'oligarchie française, qu'elle exprime très régulièrement par des propos virulents diffusés et relayés via des services de communication au public en ligne qui bénéficient donc d'une large audience, il est à craindre que sa présence en France provoque de graves troubles à l'ordre public. Il est également à rappeler que la politicienne suisse-camerounaise avait vécu en Côte d'Ivoire à partir de 2007. Elle s'était engagée aux côtés de Mamadou Koulibaly, le chef du parti Liberté et Démocratie pour la République. En 2019, elle avait été expulsée du pays vers la Suisse après avoir été déclarée persona non grata. Les pays occidentaux et surtout la France sont en panique face à l'Afrique. Leurs comportements néocoloniaux sont systématiquement dénoncés et ils n'arrivent plus à cacher leur mépris contre les Africains. S'attaquer donc à des activistes panafricanistes de cette façon, alors que la France prétend constamment être le pays des droits de l'homme et surtout le pays de la liberté d'expression, montre la panique au sein de l'Élysée qui a entièrement perdu le contrôle de la situation en Afrique. L'Afrique se libère de ses chaînes et peu importe si Paris et ses alliés sont dans le déni ou pas, la réalité est bien là. Le sentiment pro-Afrique a pris le dessus sur tout. Lors d'un vote donc à l'Assemblée générale de l'ONU, plusieurs pays africains ont décidé de sortir de leur neutralité et de voter contre la Russie, un choix dû à la pression américaine constante depuis le début du conflit en Ukraine. Mercredi, lors de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies à New York, 143 pays ont voté en faveur d'une résolution déclarant illégale l'annexion de 4 régions ukrainiennes. Seuls 5 pays s'y sont opposés, dont aucun africain. Mais à la différence des derniers votes à l'ONU, les pays africains ont, pour une partie d'entre eux en tout cas, évité de s'abstenir pour voter en faveur de la résolution. Refusant de voter pour la condamnation de l'opération militaire russe en Ukraine, le Maroc, le Sénégal ou encore l'Angola et Madagascar avaient préféré s'abstenir précédemment pour les uns et ne pas se présenter au scrutin pour les autres. Une neutralité compréhensible s'intégrant pleinement au sein d'une stratégie de non-alignement historique de la part de l'Afrique qui avait déjà subi de plein fouet la première guerre froide. Macky Sall sort de sa neutralité et cette fois donc plusieurs pays africains jusqu'ici neutres ont opté pour un vote contre la Russie. Ainsi le Gabon a voté en faveur de la résolution comme Rabat qui avait à l'époque donc pas voté et se contentant donc de suivre avec inquiétude et préoccupation l'évolution de la situation entre l'Ukraine et la Fédération de Russie. Pour le Sénégal, le choix est plus étonnant. Président en exercice de l'Union africaine, Macky Sall est passé d'une abstention logique à un vote en faveur de l'Ukraine. Washington a mis la pression depuis plusieurs semaines sur l'Afrique, notamment lors d'une tournée en Afrique de l'Est effectuée par la diplomatie américaine Linda Thomas-Greenfield, qui avait affirmé que les pays africains pouvaient acheter des produits agricoles russes, y compris des engrais et du blé, mais que les États-Unis refuseraient tout engagement sur le long terme avec la Russie. Ainsi, l'Ouganda a dû renoncer à l'achat de carburant russe, mais le pays de Mousséveni s'est cependant abstenu, comme l'Algérie, le Togo, le Burundi, le Soudan du Sud et le Soudan. Encore plus étonnamment que le Sénégal, l'Érythrée s'est-elle abstenue de voter là où elle déposait généralement à l'ONU des bulletins en faveur de Moscou. Seule l'Afrique australe a finalement tenu sa ligne, celle du non-alignement, en s'abstenant. L'Afrique du Sud, la Namibie, la Tanzanie, le Zimbabwe ou encore l'Eswatini donc ont tous évité de se prononcer. Enfin, du côté du Mali ou de la République de Centrafrique, réputée proche de la Russie, ainsi que du côté de la Guinée, ils ont également opté pour l'abstention. Et quant au Burkina Faso, qui vient de subir un nouveau coup d'État, il n'a pas pris part au vote. Ce n'est donc pas une révolution, mais les pays africains ont, semble-t-il, pour certains, revu leurs positions respectives. Le résultat d'un intense lobbying américain. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken avait quelques jours avant donc ce vote à l'ONU indiqué que l'heure est venue de s'engager au nom de l'Ukraine. Elle n'est plus donc aux abstentions, aux paroles apaisantes ou aux équivoques sous le prétexte de la neutralité. Les principes fondateurs de la Charte des Nations Unies sont en jeu. Un message adressé à demi-mot à l'Afrique. C'est fait et c'est désormais officiel. Le capitaine Ibrahim Traoré, qui a dirigé le coup d'État du 30 septembre dernier au Burkina Faso, a été choisi par les participants aux assises nationales organisées donc en fin de semaine dernière pour présider aux destinées du Burkina Faso jusqu'au 24 juillet 2024. Il a su monter les marches 4 à 4 de l'école primaire au palais présidentiel, a été donc pour ainsi dire adoubé après avoir réussi à coup d'argument ad hominem à récupérer les clés d'un pays en très mauvais état du lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo d'Amiba. Les dernières semaines de règne de ce dernier, rythmé par une litanie de griefs, ont poussé le capitaine d'artillerie à prendre ses responsabilités, comme on le dit dans le jargon militaire, avec le soutien déterminant d'une frange du peuple burkinabé qui supporte mal la relation séculaire avec la France et qui exige des nouvelles autorités qu'elle se tourne vers la Russie afin de doter le pays de moyens qui lui permettront de traquer les terroristes jusque dans les chiottes, pour reprendre les mots de Vladimir Poutine. Pour le moment, on ignore encore si le capitaine Traoré va exaucer les vœux de cette jeunesse consciente, mais le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il se retrouve entre le marteau et l'enclume, puisqu'il sera sévèrement critiqué, quel que soit le choix qu'il va opérer entre les deux puissances rivales. Un véritable casse-tête chinois dont le président de la transition aurait pu se passer au moment où tout est urgent dans ce pays profondément polarisé, et pendant que les terroristes ont déjà tissé leur toile sur plus de la moitié du territoire. S'il veut réellement mener donc la barque à bon port et rester crédible aux yeux de ses compatriotes, le capitaine Traoré devra éviter de commettre l'erreur fatale de s'acoquiner avec des individus prétendument patriotes qui ne visent en réalité que leurs propres intérêts et tout faire pour s'affranchir donc des groupes de pression d'où qu'ils viennent qui pourraient donc parasiter son pouvoir et dévoyer les nobles objectifs qui sont jusqu'ici les siens, notamment la libération du pays du joug des groupes armés. À vrai dire, ce ne sera pas chose simple, car entre impératifs sécuritaires et risque de convulsion sociale avec le drame humanitaire que vivent des régions donc entières du pays, la ligne de crête est étroite pour le natif de Kara dans la boucle donc du Moun, où les 21 mois qui nous séparent de la fin de cette transition pourraient être particulièrement éprouvants pour lui-même et pour tout le monde si, donc à Dieu ne plaise, les groupes armés poursuivent leurs œuvres de balkanisation du pays. Déjà, et comme à pied de nez aux nouveaux locataires de Kossiam, les terroristes se sont cruellement signalés dans le centre-nord en perpétrant une attaque contre le détachement militaire de Silmagué, donc quelques heures seulement après la confirmation du capitaine et homme de terrain comme président du Faso pour le reste de la transition. Les Burkinabés attendent des actes plus forts pour croire en la capacité du nouvel homme fort à être à la hauteur des enjeux et des défis. Un assaut meurtrier dont le bilan provisoire faisait état de 4 militaires et 8 volontaires pour la défense de la patrie tués sur le coup, suivi dès le lendemain d'autres incursions dans d'autres localités du pays comme à Markoye dans l'Oudalan et à Dargo dans le Namentenga. Pas de répit ou d'état de grâce pour Ibrahim Traoré qui doit tout de suite démentir la boutade d'Alphonse Karr selon laquelle plus ça change, plus c'est la même chose, en bandant donc les muscles à travers une opération foudroyante de reconquête du territoire pour démontrer à ceux qui en doutent encore qu'il n'y a pas que des officiers de pacotille dans l'armée burkinabé cantonnée à un rôle cérémoniel à Ouagadougou alors que le reste du pays brûle. Il a en tout cas promis et a déjà posé des actes qui rassurent, comme l'autorisation donnée illico presto au programme alimentaire mondial de larguer des vivres dans les villes sinistrées de Djibo, Pama, Tankoualou et Tin Akof, entre autres. Sans oublier sa présence au mémorial donc Thomas Sankara samedi dernier pour la célébration du 35e anniversaire de l'assassinat du héros de la Révolution, marqué par sa réception des mains des héritiers politiques de ce dernier. Du trophée qui symbolise en quelque sorte le passage du témoin entre lui et le défunt président. Tout cela est bien beau, mais les Burkinabés, quoique soulagés par le départ de Damiba, sont devenus incrédules et attendent des actes plus forts pour croire en la capacité du nouvel homme fort à être à la hauteur des enjeux et des défis himalayesques, donc en termes de protection des populations et de sécurité alimentaire et territoriale auxquelles le Burkina Faso fait face. Cela dit, on remarque que pour ce qui est du prochain gouvernement et de l'Assemblée législative de transition, le même nombre de ministres et de députés a été maintenu, bien que cette fois-ci, on a réussi à faire croire à ceux qui ne savent pas lire entre les lignes que les futurs parlementaires travailleront cadeau puisqu'ils ne percevront que les indemnités de cession. Seulement voilà, les sessions sont devenues permanentes au terme de l'article 18 de la nouvelle charte et les nouveaux élus de Dieu n'auront pas à grommeler puisqu'ils auront une indemnité journalière pendant toute la durée de leur mandat, ce qui peut donc représenter une belle cagnotte pour des gens censés exercer un mandat gratuit. Le Burkina espère que tous ces détails ne resteront pas en travers de la gorge de la majorité des Burkinabés, que des questions subsidiaires ne viendront pas polluer cette nouvelle transition et que les priorités ne vont pas changer de préséance, donc juste pour satisfaire les abétis, donc gargantuesques, de tous ces petits mangeurs de haricots qui graviteront autour de la table du roi.
Un article publié lundi dernier par le site d'information de Radio France Internationale renseigne que la multinationale française Total Energy est sur le point de se désengager du marché centrafricain des hydrocarbures, même si la structure n'a pas encore confirmé cette nouvelle. D'ailleurs, plus de la moitié des sanctions totales de Centrafrique sont aujourd'hui à l'arrêt, phagocytées par une pénurie de carburant. Seule celle de Bangui fonctionne et encore à tour de rôle selon les stocks disponibles, ce qui génère d'interminables queues d'automobilistes, transporteurs et mototaxis mécontents. En effet, Total Energy est à la peine sur un marché centrafricain où la rentabilité est jugée moins lucrative dans l'ensemble de son réseau en raison de nombreux facteurs conjoncturels pour lesquels l'État se coltine également une part de responsabilité. La pénurie qui frappe les stations-service du marketeur français en Centrafrique semble délibérée car l'on apprend que Total a réduit ses approvisionnements en hydrocarbures, déplorant des pertes de revenus sur plusieurs mois. Le prix réglementé du litre d'essence est de 865 francs à la pompe, mais il coûte 30 à 40% plus cher aux fournisseurs. La différence est subventionnée par l'État, mais il se trouve que celui-ci ne lui a pas réglé sa dette sur un certain temps et celle-ci se chiffre en millions d'euros. Le Premier ministre du Niger, également président du Conseil national de dialogue politique, a officiellement installé ce vendredi. Je voudrais à ce stade de mon propos adresser mes vives félicitations aux membres du comité, pour la confiance que leurs groupes respectifs ont placée en eux. Par la même occasion, je les assure de mon soutien dans l'accomplissement de leur mission au service de notre pays, a indiqué le Premier ministre lors de la cérémonie d'installation. Le chef du gouvernement nigérien a rappelé qu'en 2019, le décret et le règlement intérieur ont fait déjà l'objet d'une réflexion dans le cadre d'un comité technique tripartite similaire. Malheureusement, les résultats des travaux de ce comité ont été négativement impactés par la suspension de la participation de l'une de ses composantes, a-t-il regretté. Avec la reprise des sessions du CNDP et la participation effective de toutes ses composantes, à savoir la majorité présidentielle, l'opposition et les groupes de non-affiliés, quoi de plus normal que de reprendre cet exercice fort utile pour renforcer les capacités opérationnelles du CNDP, s'est-il réjoui. Le chef de la junte malienne, Assimi Goïta, a reçu le projet de nouvelle constitution 2 mois après sa date de livraison initiale. La présidence malienne a cité le chef du comité chargé de la rédiger, Fousini Samaki, avertissant Goïta que toute constitution sera sujette à des contestations, des critiques et des controverses. Les autorités ont formé le comité en juin dernier après avoir prolongé le régime militaire jusqu'en 2024. Les autorités maliennes ont confirmé que la rédaction d'une nouvelle constitution fait partie des réformes en vue de rétablir l'État et un référendum est attendu à ce sujet en mars 2023. Il convient de noter que l'armée s'est engagée à organiser des élections en février 2024 et à remettre le pouvoir en mars de la même année. Pour la deuxième année consécutive, le Gabon se positionne comme le pays le plus riche d'Afrique selon le rapport sur les produits intérieurs bruts par habitant des pays africains publié le 11 octobre dernier par le Centre d'études et de réflexion sur le monde francophone. Une position que le pays doit à son PIB par habitant qui se chiffre à 5,4 millions FCFA au début de l'année 2022. Ce PIB est supérieur à celui du Botswana qui arrive juste derrière le Gabon avec un PIB qui s'établit à la même période à 4,9 millions FCFA par habitant. Notons que les PIB du Gabon et du Botswana sont en hausse par rapport à la même période en 2021. Ces bonnes performances du Gabon en 2022 résultent principalement d'une politique volontariste en matière de diversification menée au cours de la dernière décennie, dans le but de sortir le pays de sa forte dépendance aux industries extractives et transformer localement une partie de la production. C'est dans ce cadre qu'ont été créées la zone économique spéciale de Nkok ainsi que d'autres zones industrielles dans le but de transformer localement les matières premières avant leur exportation.